Place Info.
Bonjour à tous et toutes, c'est 8h30 France Info du samedi sur France Info Radio, le canal 27 de la TNT, vous en avez l'habitude. Bonjour Myriam Ankawa.
Bonjour Mathéo, bonjour à tous.
Journaliste à la chaîne parlementaire, notre invité ce matin est député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, bonjour.
Bonjour.
Beaucoup de sujets à voir avec vous, on aimerait d'abord vous faire réagir à ceci.
Je veux que vous sachiez que je vais continuer à me battre pour améliorer la vie du peuple brésilien, parce que ce peuple est déshonoré. Je vais me battre pour le bien du pays, je suis reconnaissant envers vous tous.
Voilà, c'est Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, l'ancien président brésilien, sorti de prison hier soir, cette nuit, après plus d'un an et demi de détention, à la suite d'une décision favorable de la Cour suprême, une décision qui vous satisfait.
Ah, je suis très heureux. Réjouis. Je suis très heureux. Il se trouve que j'ai fait un des derniers meetings de Lula libre. C'était au Forum social mondial de Salvador de Bahia en 2018, si je ne me trompe pas, où j'avais été justement pour être un des co-créateurs du comité de soutien à Lula. Bon. Et qu'est-ce qu'on dit ? Et à l'époque, c'est intéressant l'affaire de Lula, parce qu'à l'époque, y compris en France, sur les accusations qui étaient sur lui, qui se sont toutes révélées fallacieuses, on voit bien que c'était ce qu'on appelle un coup d'État juridique pour faire en sorte qu'il ne se représente pas. Il était largement en avance dans les sondages face à Bolsonaro. Même en France, je me rappelle que les journalistes étaient sceptiques, disaient « oui, mais quand même », etc. Bon, c'est une grande leçon, parce que ça veut dire que dans pas mal de pays, on utilise certains régimes utilisent la justice pour éliminer leurs opposants. Et Lula en était un exemple emblématique. Donc déjà, leçon de choses. Deuxièmement, c'est un grand espoir. Parce que Bolsonaro est un fasciste, moi j'hésite pas à le dire.
L'actuel président du Brésil.
Voilà, qui applique des mesures à la fois écocides et néolibérales à son pays. Et Lula libre, c'est la possibilité d'une reconquête, d'une révolution
donc,
citoyenne qui reprend son cours au Brésil.
L'aider
bien
à
sûr.
Se battre pour
et
le
nous,
Brésil,
nous sommes, moi je suis matin. Très très heureux qu'il soit libre. Et je crois que je pense à tous mes amis brésiliens à cette heure.
Il y a 30 ans, jour pour jour, Éric Coquerel, le mur de Berlin tombait et personne n'avait vu venir ce moment historique. À l'époque, vous êtes un jeune trentenaire, militant de la Ligue communiste révolutionnaire. Que représente exactement cette date pour vous ?
Bah, elle est importante, comme tout le monde. Enfin, c'est plus que la chute du mur, c'est un monde qui change, qui se bouleverse à ce moment-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais à ce moment-là en off avant. Je m'occupais de courses de bateaux, donc je m'occupais de la communication du Vendée Globe et j'étais en contact tous les jours avec les marins, c'était le premier Vendée Globe. Il y a une chose étonnante, comme quoi tout s'est fait vite, c'est qu'ils sont partis des Sables d'Olonne dans un monde, ils sont revenus une centaine de jours plus tard dans un autre. Voilà, il y avait la chute du mur, la libération de Mandela, etc. Donc c'est évidemment une période de bouleversement.
Bon, c'est un moment heureux.
Ce qui est un moment heureux, c'est le fait que des pays qui vivaient sous un joug d'un point de vue des libertés, ces peuples se soient levés. Maintenant, la chute du mur elle-même, c'est-à-dire la réunification de l'Allemagne, ce que je note surtout, c'est qu'un moment de liberté, un moment de reconquête d'une souveraineté populaire
un
du
moment
côté
de
des
révolution
pays de l'Est,
pacifique.
C'est terminé dans une annexion. Dans une annexion de l'Allemagne de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest, qui n'a eu aucun rapport avec une réunification où on refait par une constituante.
Donc vous cautionnez le mot de Jean-Luc Mélenchon en parlant
de manière
d'annexion.
Commune. C'est pas ce qui s'est passé.
D'annexion de l'Allemagne.
Bien sûr, c'est ce qu'il y a eu.
De l'Ouest.
Ben, incontestablement. Vous n'avez pas à un moment donné, les deux peuples ne se sont pas réunis pour décider dans quel pays ils allaient vivre. Ça a été les règles de l'Allemagne de l'Ouest, le système économique de l'Allemagne de l'Ouest.
Mais ça veut dire quoi exactement ce mot? Parce qu'on a l'impression qu'au fond, vous mettez sur le même plan le capitalisme et la brutalité qui peut comporter
une certaine forme
de violence, c'est sûr. Mais vous le mettez sur le même plan qu'un régime totalitaire,
bah, vous trouvez que
celui de l'Allemagne
Brésil,
de l'Est.
C'est quoi comme régime ?
Je vous parle de l'Allemagne de l'Est de l'époque,
non, mais c'est pas ça que je veux dire.
Dans
c'est
laquelle que... les oui. élections sont jouées d'avance, dans laquelle il y a des prisonniers politiques, des décisions arbitraires.
D'accord.
Pour vous, c'est la même chose ?
Mais je vais vous dire une chose, il y a certaines versions du capitalisme, on le voit depuis 30 ans. À l'époque, c'est intéressant d'ailleurs de se resituer les faits, parce qu'à l'époque, on parle de liberté. Bon, et c'est vrai que je ne regrette pas les régimes tels qu'ils étaient soviétiques, tels qu'ils s'étaient figés, installés, bureaucratisés dans cette partie du monde. Mais d'un autre côté, vous n'allez pas pour autant faire en sorte que je félicite le capitalisme sauvage qui s'est aussi imposé à partir de là et qui fait le malheur de centaines de millions de personnes dans le monde, voire de milliards de personnes. Mais si Si, c'est dans certains endroits. Je parlais du Brésil. Je reviens sur le Brésil. Vous voyez bien que ce capitalisme-là, quand à un moment donné il doit s'imposer en force, il n'en a cure de la démocratie. Il s'impose en force. C'est un régime qui capte les richesses et produit des inégalités absolument insupportables, qui nous entraîne vers une catastrophe écologique. Donc, si vous voulez me dire que finalement le capitalisme dans sa version qui s'est développée justement à partir de ces années-là et les régimes qui étaient dans les pays de l'Est, si vous voulez, mais si me faire une comparaison pour me dire que l'un est mieux que l'autre, je vous réponds non.
On va parler d'un autre sujet, parce qu'on a beaucoup de choses encore une fois à voir avec vous, Eric Coquerel, un sujet qui fait aussi polémique, c'est cet appel demain à manifester à Paris, rendez-vous Gare du Nord en début d'après-midi, contre l'islamophobie. Vous comptez manifester toujours, et si vous voulez compter toujours y aller, expliquez-nous pourquoi.
Ah bien sûr.
Parce qu'il y en a d'autres qui ont signé l'appel, mais on va y revenir, finalement, ils vont pas.
Beaucoup moins qu'on le dit. Il y a plein de fake news qui circulent depuis des jours sur cette marche. Mais pourquoi
tout ça, parler,
tout simplement une chose, c'est que moi je regrette qu'après l'attentat de Bayonne, où quand même on a quelqu'un qui vient pour tuer devant une mosquée, il n'y ait pas eu des réactions au plus haut sommet de l'État, d'accord, pour appeler par exemple à une grande marche nationale, qu'il n'y ait pas eu le même type de réaction que je trouve salutaire au moment, par exemple, d'actes antisémites. C'est quand même un problème. On a aujourd'hui, maintenant, depuis des mois...
Vous parlez de l'assassinat de Mireille Knoll, par exemple.
Voilà, par exemple.
Vous trouvez qu'il y a deux poids, deux mesures.
Ah bah, clairement. Enfin,
Vous dites, en l'occurrence, je ne fais pas comprendre.
Je pense qu'il fallait aller au rassemblement Mireille Knoll.
Il y a eu deux blessés à Bayonne.
Je pense qu'en février 2019, à la place de la République, je me suis retrouvé, j'ai signé des appels, y compris avec des gens avec qui je suis en total désaccord. Au moment de Mireille Knoll, Madame Le Pen était dans la manifestation. Et là, tout d'un coup, bizarrement... Curieusement, certains, par rapport à des compatriotes qui, au nom de leur religion, sont discriminés, là, tout d'un coup, il faudrait avoir une pureté totale, que toutes les personnes présentent un CV absolument clair, mais on ne demande pas la même chose pour les autres actions. Il n'y a pas longtemps, j'ai été soutenir les Kurdes, et je ne le regrette pas. Dans une soirée d'un meeting, je me suis retrouvé avec Bruno Retailleau, je suis totalement... contre les positions de beaucoup de positions de Bruno Retailleau. Personne m'en a tiré rigueur. Donc je vous le dis, je pense qu'il y a une menace aujourd'hui très grave qui va jusqu'à, malheureusement, des attentats pour nos concitoyens de religion musulmane. Et à partir de là, en tant qu'homme de gauche, c'est de mon honneur d'être présent dans une manifestation sur un texte qui est correct.
C'est pas moi qui voulais pas vous laisser finir, c'est juste qu'il est 8h40 et vous savez, sur France Info, c'est l'heure de refaire un point sur l'info avec Yasmina Adila. À tout de suite.
À peine sorti de prison, Lula promet de continuer la lutte. L'ancien président brésilien libéré après plus d'un an et demi derrière les barreaux, ovationné par des milliers de militants de gauche. L'ex-dirigeant du Parti des travailleurs condamné à 8 ans de prison pour corruption, accusé d'avoir attribué des contrats gouvernementaux en échange de pots de vin. 30 ans après la chute du mur de Berlin, l'Allemagne célèbre sa réunification après 28 ans de séparation. Angela Merkel doit prononcer un discours dans la matinée. La chancelière allemande rencontrera demain Emmanuel Macron. Les deux dirigeants discuteront ensuite de l'avenir de l'Europe. 8 ans de prison pour Claude Chaussat, ex-gangster et repenti autoproclamé. Son épouse s'est dit sur France Info déçue. Cet ancien de la bande criminelle La Brise de Mer, accusé de complicité d'assassinat, celui de Richard Casanova, fondateur présumé de ce gang criminel corse mort en 2008. Nouvel hommage aux victimes de la rue d'Aubagne à Marseille. Un an jour pour jour après l'effondrement de 3 immeubles et la mort de 8 personnes. Rassemblement pour dénoncer les lenteurs administratives et demander un relogement durable. Un partout entre la France et l'Australie en finale de la Fed Cup de tennis. Cuisante défaite de Caroline Garcia face à la numéro 1 mondiale Ashley Barty. Score final 6-0, 6-0.
France Info. Et tout est plus clair.
Le 8:30 France Info avec ce matin Eric Coquerel, Myriam Ankawa.
Alors on continue à parler de cet appel à manifester contre l'islamophobie dimanche à Paris. Le texte lui-même de l'appel publié dans Libération qui évoque, je cite, des projets ou des lois liberticides qui visent les musulmans suscite une forme de malaise, y compris dans votre propre famille politique, puisque on va écouter par exemple François Ruffin, il était sur France Inter, et bien il prend très clairement ses distances. Vous réagissez après.
Moi, j'étais à Bruxelles en train de manger des frites et des gaufres avec mes enfants, donc c'est pas mon truc. Maintenant, je vais vous dire.
Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
j'irai pas dimanche. J'irai pas dimanche. Je joue au foot. Donc voilà, vous savez, je fais pas de médias le dimanche non plus parce que je joue au foot. En revanche, je vais vous dire ma conviction profonde là-dessus.
Vous regrettez d'avoir signé cette tribune?
Non, je vais vous dire ma conviction profonde sur le fond. Je ne veux pas de guerre de religion.
Vous comprenez, ce que dit Éric Ruffin en disant qu'il finalement il n'ira pas à cette manifestation.
Je pense que François a fait une erreur et il s'est excusé même dans un tweet recherché. J'invite tous vos auditeurs à aller chercher le tweet François Ruffin. Il s'excuse auprès d'un des initiateurs. Il dit si ces paroles ont pu choquer, je les regrette, etc. Et j'observe une chose, vous avez bien entendu, est-ce que vous regrettez d'avoir signé l'appel ? Non. D'accord. Donc, arrêtons d'essayer, j'allais dire depuis des
c'est
jours.
Non, mais quand c'est même, on a l'impression très,
on m'a dit André Chassaigne ne signe plus l'appel. C'est faux.
Alors, sur le
etc.
fond,
donc,
sur le fond,
donc,
les
arrêtons,
lois liberticides.
Jamais je n'ai vu, non, attendez, c'est important, jamais je n'ai vu une manifestation, d'accord, s'insurgeant contre une forme de racisme évidente. Malheureusement même, y compris véhiculé au plus haut sommet de l'État, je parle
par
exemple de M. Blanquer,
vous ne parlez pas d'islamophobie,
qui explique qu'il
faut
dénoncer des petits garçons qui ne donnent pas la main à une petite fille. Je n'ai jamais entendu, dans un moment où vous avez des chroniqueurs sur des chaînes de télé, devant des centaines de milliers de personnes, je parle de M. Zemmour, qui ont un discours qui avait avant des groupuscules néo-nazis, il y a une vingtaine d'années, devant 200 personnes. Je n'ai jamais entendu autant de choses, de fake news et d'alertes par rapport à une manifestation. Et encore une fois, je trouve que ce n'est pas
alors,
au niveau.
Justement.
Au niveau. On est en
justement,
train de faire.
Éric Coquerel.
Prenons
des faits. Yannick Jadot a signé l'appel et puis il ne va pas à la marche. Il dit, je ne suis pas à l'aise avec tout ce qu'il y a dans le texte et notamment cette question de projet ou des lois libertaires. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en France, alors, selon vous, dans la loi, des choses qui sont liberticides envers nos concitoyens musulmans ?
Ah bah,
la question est simple.
Il y a une loi qui vient d'être votée au Sénat, très clairement. J'espère qu'elle ne sera pas votée à l'Assemblée. Mais celle qui veut étendre la laïcité jusqu'aux mamans accompagnatrices à l'école, d'accord, qui ne sont pas des fonctionnaires, qui ne parlent pas au nom de la collectivité, je trouve que c'est, si elle était adoptée, c'est une loi libertine.
Le gouvernement a déjà dit qu'il n'adopterait pas cette loi sur les sorties scolaires.
Je regarde ce qui est marqué dans le texte. Moi, je vous dis ce que moi j'ai sur quoi je vais manifester. Que d'autres dans la manifestation étendent la question des lois liberticides à des lois que, pour ma part, je revendique. Je pense notamment à celle, par exemple, de 1905. Je pense, par exemple, à celle qui fait que des enfants mineurs à l'école n'aient pas de signe distinctif religieux. Ça, c'est leur problème. Moi, je vais manifester sur les bases de l'appel. Et les bases de l'appel ne précisent pas ça. Les bases de l'appel, j'invite chacun à le lire parce que là aussi, on lui fait dire beaucoup de choses. Il est très clair. Y compris sur le terme islamophobie qui n'est pas
ma
préférence parce qu'il a des ambiguïtés, mais l'appel dit très clairement.
Expliquez-nous les ambiguïtés pour qu'on comprenne, parce que c'est pas toujours simple.
Les ambiguïtés, c'est qu'aujourd'hui, il est dans le sens commun pour la plupart des organisations et même beaucoup de médias, il est devenu la traduction en gros de la haine anti-musulman, d'accord. Mais il peut aussi présenter une signification qui serait le droit de critiquer une religion. Bien évidemment, moi, je pense qu'on a le droit de critiquer les religions. Mm-hmm. C'est évident.
Le
je suis laïque. Je pense que la laïcité permet de croire ou de ne pas croire, la liberté de conscience. Bon, mais ce texte dit très clairement, justement, lisez-le.
Mais Jean-Luc Mélenchon lui-même, Éric Coquerel,
n'est pas utilisé dans
2015.
Le terme de critique de la religion, mais seulement de celle de stigmatisation des musulmans. Donc, arrêtons de faire dire
donc
à ce texte autre chose qu'il
ne dit. Donc Jean-Luc Mélenchon, qui après les attentats, disait clairement, écrivait, on a le droit de ne pas aimer l'islam comme on a le droit de ne pas aimer le catholicisme. Il disait qu'il contestait même le terme d'islamophobie. Il a changé d'avis.
Alors, je vais vous dire une chose. Je n'utilise toujours pas ce terme. Maintenant, ça ne va pas m'empêcher de signer un texte unitaire avec beaucoup, beaucoup de monde. Monsieur Martinez, Monsieur Jadot l'a quand même signé, même s'il dit qu'il ne va pas manifester, Monsieur Cormon, etc. Deuxièmement, la période a changé. Et je le regrette bien. Il y a quelques années, effectivement, je pense que le racisme anti-arabe ne se travestissait pas derrière un racisme vis-à-vis d'une religion. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le cas. Les vannes sont ouvertes. Et j'allais dire que les vannes sont plus ouvertes, malheureusement, dans le peuple de France. Moi, je le vois en Seine-Saint-Denis. Elles sont plus ouvertes au niveau de nos soi-disant élites, certains médias, certains chroniqueurs, au niveau du gouvernement. Tout ça sous la pression du Rassemblement national. Je le regrette, mais c'est le cas.
Un dernier mot.
Il faut laisser vivre tranquillement les gens qui, dans notre pays croit en l'islam, c'est la deuxième religion de France, qu'on arrête de les stigmatiser. Est-ce qu'on veut une nouvelle guerre de religion ? C'est ça qui est posé comme question.
L'un des initiateurs de cet appel, c'est le CCIF, le collectif contre l'islamophobie, qui est réputé proche des frères musulmans, ce qui fait aussi que des gens aient pris leur distance. C'est pas un obstacle ou un souci pour vous ?
Je vais vous répondre de deux manières. Allez-y. D'abord, moi je vais vous dire, je connais mal, très mal, je l'admets, les organisations qui se réclament de l'islam tout en étant une pensée politique. D'accord. J'ai lu, j'ai regardé ce que dit le CCIF. Je voudrais effectivement décortiquer parce qu'on dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'accusations qui sont là depuis quelques jours, y compris il y en avait une vraie, c'est-à-dire il y avait quelqu'un qui avait signé, qui a 10 ans a tenu des propos absolument inqualifiables, qui est revenu dessus, qui les a arrêtés, mais qui a retiré sa signature. Bon. Le CCIF, je veux bien avoir une analyse sur, mais en tout cas, pour moi, c'est pas pire que le CRIF. D'accord? Et moi, j'ai répondu à des appels du CRIF. En termes de communautarisme, je veux dire. Bon, maintenant, si vous voulez,
qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Parce que ce qu'on reproche au CCIF, c'est au fond d'avancer masqué au service d'une forme d'islam politique.
Non.
La même chose avec
Non. Vous savez ce que c'est que le danger communautariste à un moment donné, c'est d'imposer des lois religieuses ou des lois particulières à la République. Je pense qu'en réalité, dans notre pays, heureusement, à une échelle de masse, je veux dire, il n'y a pas de danger. C'est-à-dire que je pense que tout ça est très marginal. Quand ça va trop loin, il faut que les lois agissent, etc. Mais maintenant, le CCIF, moi je regarde le CRIF par exemple, à certains moments, sur des appels à soutenir un gouvernement étranger qui, par exemple, colonise le peuple voisin contre toutes les résolutions de l'ONU, bon, bah, ça dépend d'où on se trouve. Pour moi, c'est condamnable. Ça m'empêche pas, quand le CRIF fait un appel par rapport et parmi les initiateurs de manifestations contre l'antisémitisme, ça m'empêche pas de répondre présent. Je réponds présent sur mes bases. Et ce que j'observe, c'est que le CCIF a signé un texte qui, par ailleurs, d'accord, n'a absolument aucune ambiguïté sur une quelconque vision politique d'une religion.
Voilà, on va parler aussi du reste de l'actualité.
En plus, c'est un des initiateurs. Il y en a beaucoup d'autres.
Je l'ai dit comme ça, l'un des initiateurs. On va parler de l'actualité sociale également. Éric Coquerel, avant le prochain rappel d'été sur France Info. Écoutez, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui était sur France Info jeudi et qui a évoqué la mise en place de quotas professionnels d'immigration.
Nous avons un objectif simple, favoriser une immigration économique là où nous avons besoin de main-d'œuvre, là où nous avons besoin de cerveau, là où nous avons besoin de savoir-faire. Il ne s'agit pas pour nous d'en faire une arme anti-immigrée, une arme anti-étranger, il s'agit d'avoir une politique là aussi maîtrisée sur la migration économique. Elle ne l'était pas parce qu'elle ne correspondait pas à des réalités, des besoins. Demain, elle doit l'être.
Ce n'est pas une arme anti-immigrée, dit le ministre de l'Intérieur. Comment vous réagissez? Est-ce que vous vous êtes convaincu?
Non, je suis pas convaincu. Écoutez, il y a pas que la mesure des quotas. En même temps, ils ont réduit l'AME, c'est-à-dire l'aide médicale. Donc, ils attaquent un peu sur plusieurs sujets, et surtout, un an après que une loi asile immigration a été votée, qui notamment envoyait des enfants mineurs dans les centres de rétention, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent le thème sur le...
Là, sur les quotas, il ne s'agit pas de réduire l'immigration. Au contraire, il s'agit de l'augmenter pour pallier le manque de main-d'œuvre dans certains secteurs en tension.
Mais l'important, c'est moins les mesures, j'allais dire, que de remettre à nouveau le couvert en laissant penser que le problème central des Français aujourd'hui serait la question des migrants, d'accord? Tout ça un mois avant les grandes grèves du 5 décembre, que j'espère reconductibles, générales, contre les mesures sociales du gouvernement. Donc je pense que tout ça est une manière à la fois de continuer à animer ce débat malsain avec le Rassemblement national. Manifestement, c'est ça qu'ils espèrent pour les prochaines élections, et ils espèrent s'en tirer comme ça. Et en même temps, de toujours pointer, finalement, le plus faible, au lieu de parler des vrais problèmes, par exemple de la captation des richesses par les actionnaires, de toujours pointer le plus faible. Il n'y a pas de problème de l'immigration aujourd'hui en France. Il y a un problème de l'accueil de l'immigration. Mettons les moyens pour ne pas laisser des pauvres gens dans la rue. Allez. Et je vous verrai, ça ira mieux.
Il est encore 8h50 sur France Info, l'info avec Yasmina Adila.
La chute du mur de Berlin, c'était il y a 30 ans, jour pour jour, la frontière entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest s'ouvrait. Une cérémonie doit se tenir dans la matinée avec un discours de la chancelière Angela Merkel avant un concert prévu ce soir. Lula veut continuer la lutte. L'ancien président brésilien sorti de prison, acclamé par des milliers de partisans de gauche. Dans son discours devant la prison, il s'en est pris au président actuel Jair Bolsonaro. Lula, libéré après plus d'un an et demi derrière les barreaux, condamné à 8 ans de prison pour corruption. Vont-ils accepter d'indemniser les victimes de prêtres pédophiles? Les évêques réunis à Lourdes rendront leur décision aujourd'hui. Cette indemnisation pourrait prendre la forme d'un forfait de milliers d'euros. Une marche de la colère à Marseille, un an après l'effondrement de 3 immeubles rue d'Aubagne. Manifestation cet après-midi pour dénoncer la lenteur des pouvoirs publics, mais aussi pour demander un relogement durable rapidement. Un hommage sera rendu aux 8 morts dans ce drame. La finale de la Fed Cup de tennis, un partout entre la France et l'Australie, après la cuisante défaite de Caroline Garcia face à la numéro 1 mondiale Ashley Barty, et ce score 6-0. Premier point pour la France, remporté plus tôt par Kristina Mladenovic.
France Info. Et tout est plus clair.
Le 8:30 France Info jusqu'à 9h avec Éric Coquerel et Myriam Ankawa.
Éric Coquerel, est-ce que vous soutenez le mouvement de grève générale reconductible à partir du 5 décembre prochain à la SNCF et la RATP? Est-ce que, au fond, vous souhaitez un hiver noir et une forme de France bloquée dont déjà les usagers peuvent craindre?
C'est ça. Écoutez, vous savez, moi, je me souviens en novembre 1995, la France est bloquée et les usagers ont soutenu le mouvement à 75% parce qu'ils ont bien compris que les gens se battaient pour, y compris leurs acquis sociaux et leur retraite et leur sécurité sociale. Donc je pense que ça sera la même chose cette fois-ci. C'est-à-dire, je crois que, je l'ai vu d'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti récemment dans les Échos qui montre que de plus en plus de Français soutiennent les revendications contre la casse, non pas la réforme, mais la casse.
Quand ça avait duré trois mois à la SNCF, le soutien avait un peu baissé au fil des jours quand même.
Oui. Absolument pas. Novembre 1995, ça n'avait absolument
2019,
pas baissé.
Non, je vous parle de l'année dernière. Mais 2019 attendez, n'est pas chacune, 95
d'accord,
non
mais
plus.
Là, sur, bon, on pourrait parler aussi de la forme de mouvement qui a eu lieu avec des jours annoncés, puis bon, mais laissons tomber. Ce que je crois, c'est qu'il y a un vrai mécontentement social, et je pense que les gens tiennent à leur régime de retraite. Non. Je crois que la RATP, les gens de la SNCF ouvrent la voie, et ce que je souhaite, c'est pas moi, je ne suis pas syndicaliste, donc c'est pas à moi de décider, mais c'est qu'on aille vers une grève générale reconductible. Pourquoi? Parce que ça permettrait d'aller plus vite pour battre la réforme du gouvernement, et que cette réforme est mauvaise parce qu'elle casse un des grands acquis sociaux de la France, acquis après la Seconde Guerre, renforcé dans les années 80, et qui vise à forcer les gens à travailler toujours plus longtemps, alors même qu'on a 6 millions de chômeurs dans ce pays. Donc, et qu'il vaudrait mieux partager le temps de travail.
Vous souhaitez, au fond, que ces retraites telles qu'elles existent soient défendues. Est-ce que vous souhaitez aussi une forme de convergence de toutes les luttes, avec un effet boule de neige, un peu gilet jaune, avec des fonctionnaires, mais pas seulement dans la rue? Mais... parce qu'on voit qu'il y a une grogne sociale très forte à l'hôpital, dans l'enseignement. Mais vous souhaitez, au fond, que toutes ces catégories se réunissent?
Bah oui, pourquoi? Parce que la politique du gouvernement, je la trouve mauvaise pour le pays. D'accord? Elle attaque, elle ne donne plus de moyens et donc elle fragilise l'État. Et on le paye à tout niveau, que ce soit dans les services d'urgence, que ce soit les pompiers, à l'hôpital, que ce soit en gros tous ceux qui servent l'État. D'un autre côté, elle attaque les retraites. D'un autre côté aussi, elle attaque les chômeurs. Je vous rappelle avec cette loi allocation de chômage qui vient d'être réformé, qui va sortir possiblement ou diminuer les allocations de 1 500 000 personnes. Donc je peux vous annoncer que le chiffre de pauvreté qui a augmenté l'an dernier de 400 000 va encore augmenter l'an prochain. Donc il y a plein de raisons de se mobiliser. Et là quand un gouvernement...
Et tant pis pour la paralysie.
Et la seule manière, à mon avis, l'arme la plus efficace, en dehors des urnes dans lesquelles nous reviendrons bientôt, eh bien c'est la grève. Donc à partir de là, j'espère bien qu'on fera face, que les salariés feront face à ce gouvernement avec l'arme qu'ils peuvent utiliser, c'est-à-dire la grève.
Ce qui joue peut-être pour vous aussi les opposants à cette réforme des retraites, c'est qu'il y a une forme de cacophonie aussi au sommet de l'État. C'est pas la première fois que le haut commissaire, désormais au gouvernement chargé de ce dossier, Jean-Paul Delevoye, s'oppose au président ou au premier ministre. C'est encore le cas sur cette clause du grand-père qui aurait fait que les nouveaux entrants seulement auraient été concernés par cette réforme. Là aussi, il y a de la friture
sur
la ligne.
Parce qu'ils ont peur. Très franchement, ils ont peur et ils ont raison. Ils ont bien regardé ce qui se passait à la RATP. Il y a longtemps qu'il n'y a pas une mobilisation aussi importante. Bon, ils entendent ce qui se passe à la SNCF. Donc, ils essayent de contourner les choses. Alors, la clause du grand-père, pour expliquer à vos auditeurs et aux téléspectateurs, c'est le fait qu'en réalité, on appliquerait cette réforme que dans 40 ans. Donc, on demande bien pourquoi on mettrait à mal le pays avec une réforme de ce type.
C'était une erreur de sortir cette carte maîtresse.
Non, je pense que ça, c'est pas que c'est une erreur. Je pense que ça indique qu'ils ont peur. Voilà. Et qu'ils feraient mieux tout de suite, au lieu de faire mal au pays, et justement de provoquer des grèves, parce que c'est eux qui déclenchent les grèves.
Et vous,
ils feraient mieux de retirer leur projet tout de suite.
De voir que finalement les syndicats, vous êtes attachés au corps intermédiaire, au mouvement syndical, sont complètement dépassés, notamment à la SFCF, débordés par la base, et qu'il risque d'y avoir des tensions s'il n'y a plus d'interlocuteurs pour négocier.
Mais il y aura toujours des interlocuteurs. Moi, je me souviens, vous savez, l'auto-organisation, c'est pas nouveau. Moi, j'ai participé à un très grand mouvement auto-organisé contre Devaquet en 86, qu'on parle de passé. Bah, il y a eu une co-organisation au bout d'un moment, puis le gouvernement a dû négocier avec les structures que s'étaient données les manifestants. Là, c'est peut-être pareil. Mais j'ai pas l'impression. Moi, par exemple, j'ai été récemment soutenir les grévistes de Châtillon, du centre de maintenance des TGV. Bon, ils sont partis en grève d'eux-mêmes, d'auto-organisation. Mais il y a des syndicats qui sont quand même avec eux, qui les soutiennent. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de distance. Par contre, qu'à un moment donné, il y ait une auto-organisation, ce qui ça permet d'être plus efficace et de généraliser en lien avec des syndicats combatifs. Pourquoi pas? Je trouve ça plutôt intéressant. Vous savez, ça se passe un peu partout dans le monde. Hein. C'est ce que nous, on appelle des révolutions citoyennes. En tout cas, des germes de révolutions citoyennes. En Amérique latine, il y en a plein, au Liban, etc.
Une dernière question. Le politologue Thomas Guénolé, qui a fait partie de l'aventure Insoumise un temps, en étant même l'un des vos plus farouches défenseurs, a pris ses distances. Il est parti. Il allume le parti dans la chute de la maison Mélenchon, publié chez Albin Michel. Il dit notamment que toute critique interne ou tout débat interne est impossible à la France Insoumise.
Et j'ai pas cette vision-là, voilà, des choses. Ce que j'observe, c'est que Thomas Guénolé, encore quelques jours avant, n'avait aucune critique. Donc voilà.
Bon, donc on peut débattre.
Bien sûr. C'est pas le premier départ et c'est bien pas sûr. La première fois qu'on entend
bien sûr
ces
qu'on peut débattre. Là, par exemple, on a des débats sur tous les sujets dans le groupe électoral. J'ai pas cette vision-là des choses. Voilà.
Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'être passé à France Info, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci, Myriam.
On se retrouve
demain avec Jean-Jérôme Bertolus et avec le député Europe Écologie Les Verts, Thomas Carême, député ex-maire de Grande-Synthe dans le Nord.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis, un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.